Fleury et Horry équilibrent le budget. Le mariage passé, Louis XV se montre très agacé par la collaboration étroite entre le duc de Bourbon et les Paris du Vernet, qui ont si bien travaillé à la ruine du système Law. Il le disgracie. Celui qui va désormais faire la politique de la France se nomme le cardinal de Fleury, fils d'un petit receveur d'impôts, évêque de Fréjus, qui ne perdra jamais le titre de premier ministre, mais dont l'influence sera toujours déterminante au sein des conseils. Il nomme Philibert Horry, pour qui un sou est un sou, contrôleur général des finances. En 15 ans, il va assainir le budget qui, pour la première fois depuis 1671, est équilibré en 1738.
Bien-aimé. Après avoir arraché à la coalition austro-anglaise Cambrai, Lille, Maubeuge et Ypres pendant la guerre de succession d'Autriche, Louis XV séjourne à Metz le 10 août 1744. Qui l'accompagne dans ses pérégrinations guerrières? La reine? Non, sa maîtresse, la duchesse Marie-Anne de Châteauroux. Depuis le 8 août, Louis XV ne se sent pas bien. Il est fébrile, souffre de violentes migraines, il ne dort plus. Ses médecins, La Péronie, Marco, Chiquano, Casteras et Dumoulin, rassemblent leurs savantes connaissances pour décider de pratiquer une saignée, comme d'habitude. Mais l'état du roi empire. Le royaume tout entier va se mettre en prière. Les Français aiment ce roi qui leur paraît humain, à leur mesure, courageux. Le 11 août, le roi est au plus mal, mais il est bien gardé par sa maîtresse qui interdit qu'on l'approche. Monseigneur Fitz-James refuse alors de donner au roi les derniers sacrements. Le roi doit se séparer de sa maîtresse. Celle qui doit être là si le mourant expire, c'est la reine, qu'on est allé chercher d'urgence à Versailles. La maîtresse part, son carrosse est criblé de jets de pierre, d'œufs et de fruits pourris. On l'accuse de la maladie du roi. La reine est en route. C'est à ce moment que l'image de Louis XV va être ternie dans l'histoire, davantage que dans le royaume. En effet, le parti dévot exige du roi une confession publique qui va être lue dans toutes les églises. Une confession où Louis avoue ses fautes. L'effet escompté est mitigé. La surprise passée, le peuple n'en veut pas longtemps à son souverain. Personne n'ignore que derrière les dévots se cache le Parlement, qui n'a qu'un intérêt, discréditer le roi par tous les moyens. Le 17 août, la reine arrive à Metz. Le roi implore son pardon. Le 18, la fièvre diminue. Le 19, il se lève. La France déborde de joie en apprenant que son roi, le bien-aimé, adjectif composé pour l'occasion par un poète, est guéri, ou presque. Le 9 septembre, il coiffe sa perruque et tient son conseil. Quelques jours plus tard, il est à cheval à la tête de ses armées. Le temps de l'allégresse passée, le roi devenu vieux, des Français se rappelleront la confession du souverain qui perda son titre de bien-aimé, au point qu'à sa mort, en 1774, on n'osera pas lui faire des funérailles publiques.
Et pourtant, Fleury n'a pu lui éviter la guerre de succession de Pologne, commencée en 1733 et qui a duré 5 ans. La France, l'Espagne, la Sardaigne et la Bavière se sont opposées à la Russie et à l'Autriche à propos de la succession d'Auguste II, roi de Pologne. L'Autriche et la Russie proposent Auguste III, fils du défunt. La France soutient Stanislas Leszinski qui, retourné sous un déguisement dans son pays, est reconnu et acclamé par le peuple. Élu par la Diète de Varsovie, il est bientôt assiégé par Auguste III. Il attend des renforts de Louis XV, de tout petits renforts qui le forcent à se retirer à Dantzig. La paix est signée le 18 novembre 1738 à Vienne. Auguste III est roi de Pologne. À Stanislas, qui mourra à 89 ans en 1766, brûlé dans sa cheminée, revient le duché de Lorraine, dont héritera Marie Leszinska, c'est-à-dire la France.